Devant une bouteille d'absinthe de William Chambers Morrow. Arthur Kimberlin, jeune homme d'une surprenante énergie, se trouva un soir de pluie sur le pavé de San Francisco, sans la moindre relation dans cette ville et à un moment où son cœur se brisait. La faim le torturait et sa souffrance physique était d'autant plus poignante qu'elle n'avait pu ébranler son cerveau. Il ne lui restait rien, pas le moindre objet qu'il pût échanger contre un morceau de pain. Il avait vendu même la plupart de ses vêtements, ne gardant que ceux que lui commandait la décence. Et maintenant, le froid le saisissait, conspirant avec la faim pour achever sa misère. Né dans une situation aisée, ayant reçu une bonne éducation, il manquait du courage nécessaire et de l'habileté que comporte le vol. Ne lui fût-il pas arrivé une aventure extraordinaire, il se serait dans les 24 heures noyé dans la baie ou serait mort de pneumonie dans la rue. Il n'avait rien mangé depuis 70 heures et le désespoir de son cœur avait, concurremment avec le besoin, épuisé ses forces physiques. Maintenant blême et chancelant, il se consolait de son mieux à humer goulûment le fumet des cuisines des restaurants dans Market Street, plus soucieux de ne rien perdre des savoureuses odeurs que d'éviter la pluie. Ses dents claquaient, il se traînait, trébuchait, haletait sans force à cette heure pour maudire sa destinée, n'ayant plus qu'un désir, manger. Raisonner, il ne le pouvait plus. Il ne comprenait pas que 10 000 mains se seraient tendues vers lui et de grands cœurs lui eussent donné la nourriture dont le besoin le tuait. Il ne pouvait penser qu'à la faim qui le torturait, aux aliments qui lui procureraient chaleur et joie. Il était arrivé dans Mason Street quand il aperçut à quelque distance de l'autre côté de la rue un restaurant. Il y alla, traversant la rue en biais. Devant les hautes vitrines, il s'arrêta, couvant des yeux les viandes épaisses et bordées de graisse, les larges huîtres posées sur la glace, des tranches de jambon grandes comme son chapeau, des poulets rôtis entiers, rissolés et baignant dans le jus. Il grinça des dents, gémit et s'éloigna en chancelant. À quelques pas se trouvait un bar, avec une entrée particulière sur la porte de laquelle on lisait « Entrée des familles ». Dans l'encoignure de cette porte, d'ailleurs fermée, se tenait un homme. En dépit de son propre supplice, Kimberlin lut sur la physionomie de cet individu un je ne sais quoi qui le fit frémir et le fascina. La nuit était venue et cet endroit n'était que faiblement éclairé. Mais il était évident que l'inconnu avait une apparence dont il devait lui-même ignorer le caractère particulier. Peut-être fût-ce l'insolite angoisse traduite sur ce visage qui fit appel à la sympathie de Kimberlin. Le jeune homme s'arrêta hésitant et considéra l'inconnu. D'abord, l'autre ne le vit pas, car il regardait droit devant lui dans la rue, avec une fixité singulière et la pâleur de la mort de son visage ajoutait à la sinistre immobilité de son regard. Soudain, il aperçut Kimberlin. « Ah !» dit-il lentement avec une netteté particulière. « La pluie vous aussi vous a surpris sans par-dessus ni parapluie. Venez sous cette porte, il y a place pour deux. » La voix n'était pas sans bienveillance, bien que d'une inquiétante âpreté. Et puis, c'était la première parole que s'entendait adresser le malheureux depuis que la faim s'était emparée de lui, et s'entendre seulement parler, voir aussi qu'on s'inquiétait, si peu que ce fût, de son bien-être, lui donna courage. Il s'abrita sous la porte à côté de l'inconnu, qui aussitôt retomba dans l'immobilité, les yeux fixes perdus dans le vague de la rue. Mais bientôt l'étranger parut se réveiller.
« Il peut pleuvoir longtemps encore, » dit-il. « J'ai froid et je vois que vous frissonnez. » « Entrons boire quelque chose. »
Il poussa la porte et Kimberlin le suivit, le cœur réchauffé par l'espoir. C'était une salle divisée en une série de petits box ou compartiments qu'une mince cloison séparait les uns des autres. Une porte permettait de s'isoler complètement. Le pâle inconnu le mena dans l'un des deux, mais avant de s'asseoir, tira de sa poche une liasse de billets de banque.
« Vous êtes le plus jeune, » dit-il.
« Voudriez-vous me faire le plaisir d'aller au bar acheter une bouteille d'absinthe et de rapporter une carafe et des verres? Je n'aime pas voir les garçons tourner autour de moi. Voici un billet de $20. » Kimberlin prit le billet et, sortant dans le corridor, se dirigea vers le bar. Il tenait l'argent serré dans ses doigts. Il en éprouvait une telle sensation de chaleur et de confortable que dans le bras lui en passait un délicieux frisson. Que de repas copieux et chauds ce billet de banque ne représentait-il pas? Il le serra plus fort et hésita. Il croyait humer une large grillade flanquée de gras petits oignons nageant dans le beurre fondu du plat fumant. Il s'arrêta
et derrière lui jeta un regard vers la porte du box. Il vit que l'étranger l'avait fermée. Il pouvait revenir sur ses pas, la dépasser, se glisser au dehors et acheter de quoi manger. Il fit demi-tour, mais le lâche en lui, il est d'autres noms pour cela, fit crouler sa résolution. Il se dirigea droit vers le bar et fit son emplette. C'était tellement inhabituel que le garçon à qui il s'adressait l'examina attentivement.
« Vous n'allez pas boire tout cela, dites-moi donc »
demanda-t-il.
« Je suis dans un box avec des amis, » répliqua Kimberlin. « Et nous voulons boire tranquillement, sans être dérangés. Nous sommes au numéro 7. »«
Oh, pardon, ça va bien !» fit le garçon.
Le pas de Kimberlin était bien plus ferme et plus assuré, comme il s'en revenait avec la boisson. Il ouvrit la porte du box. L'étranger s'était assis à la petite table, fixant la cloison en face de lui de ce même regard dont il fixait l'autre côté de la rue tout à l'heure. Il portait un chapeau mou à large bord, rabattu sur ses yeux. Ce fut lorsque Kimberlin eut posé sur la table la bouteille, la carafe et les verres, et eut pris place vis-à-vis de l'inconnu et dans la ligne de son rayon visuel, que l'homme pâle le remarqua.
« Ah, vous l'avez apporté ? Que c'est aimable à vous. Maintenant fermez la porte. »
Kimberlin avait glissé la monnaie dans sa poche et se disposait à l'en tirer quand l'inconnu lui dit
« Gardez la monnaie, vous en aurez besoin, car je vais vous la reprendre d'une manière qui vous intéressera. Buvons d'abord, je vous expliquerai ça ensuite. »
Le pâle inconnu lentement fit deux absinthes et tout de bure. L'ingénu Kimberlin n'avait jamais encore bu d'absinthe. Il trouva ce breuvage âcre et désagréable, mais le liquide ne fut pas plutôt descendu dans son estomac qu'il communiqua à son être entier une douce chaleur.
« Cela nous fera du bien, » fit l'inconnu. « Tout à l'heure, nous en reprendrons. Mais dites-moi, connaissez-vous le jeu de dés ?»
Kimberlin avoua très franchement ne pas le connaître.
« Je le pensais. Eh bien, veuillez donc aller au bar, demander un cornet et des dés. Je sonnerai bien, mais je n'aime pas avoir affaire avec les garçons. »
Kimberlin revenait bientôt avec le jeu, refermait la porte et la partie commença. Ce n'était pas l'antique et simple jeu. Il y avait des complications où le jugement, autant que le hasard, jouait un rôle. Après une partie ou deux sans enjeu, l'étranger dit
« Maintenant, vous m'avez l'air de comprendre. Fort bien. Je vais vous prouver que vous n'y entendez rien. Nous allons jouer $1 la partie et je vais ainsi vous regagner la monnaie qu'on vous a rendue. Sans quoi ce serait vous voler, et volontiers j'imagine que vous n'avez pas les moyens de les perdre. Ceci n'est point pour vous blesser, mais je parle franc, et j'estime plus l'honnêteté que la politesse. Je veux seulement me distraire un peu, et je vous crois assez aimable pour pouvoir escompter votre bon vouloir. »
« Certainement, » répliqua Kimberlin, « je serai ravi. »
« Parfait, mais buvons encore avant de commencer. Je crois que j'ai plus froid. »
Ils burent encore et cette fois notre affamé prit le breuvage avec délice. C'était du moins quelque chose dans l'estomac et ça le réchauffait et l'enchantait. L'enjeu était $1. Kimberlin gagna. Le pâle inconnu eut un sourire lugubre et attaqua une nouvelle partie. Kimberlin gagna encore. L'inconnu alors releva son chapeau et regarda son partenaire de son regard fixe, souriant toujours. Cette vue en pleine lumière du visage blême de son compagnon épouvanta plus encore Kimberlin. Il avait commencé à retrouver sa pleine possession de lui-même et toute son aisance. L'étonnement que lui causait le singulier caractère de son aventure avait aussi commencé à se dissiper, et voilà que ce nouvel incident venait de nouveau embrouiller ses idées. Ce qui l'alarmait, c'était l'extraordinaire expression du visage de l'étranger. Jamais il n'avait vu sur un visage humain pareille pâleur de mort. Le visage était plus que pâle, il était blanc. Chez Kimberlin, la faculté d'observation avait été aiguisée par l'absinthe. Après avoir à deux ou trois reprises observé que l'inconnu inconsciemment se prenait à caresser de la main une barbe absente, il réfléchit qu'une partie de la blancheur de la figure était due à la récente suppression d'une barbe bien fournie. Outre sa pâleur, la lumière électrique faisait très distinctement ressortir ses traits creusés et très accentués. À l'exception du regard fixe des yeux et, par intervalle, de ce sourire dur qui semblait déplacé sur un tel visage, l'expression était celle d'une statue taillée sans art. Les yeux étaient noirs, mais mornes. La lèvre inférieure était pourpre. Les mains étaient blanches, fines et maigres, sillonnées de veines sombres. L'inconnu ramena son chapeau sur ses yeux. «
Vous avez de la chance, » dit-il. «
si nous buvions encore. Il n'est que l'absinthe pour affiner l'esprit, et je vois que vous et moi, nous allons passer une délicieuse soirée. »
Après boire, la partie recommença. Kimberlin, dès le début, gagna, ne perdant que rarement une partie. Il était maintenant très excité, ses yeux brillaient, il avait du rouge aux joues.
L'inconnu, ayant perdu la liasse de billets qu'il avait tirée, en prit une autre, plus volumineuse et d'un chiffre plus élevé. La liasse valait plusieurs milliers de dollars. À la droite de Kimberlin étaient ses gains, 200 dollars environ. Ils élevèrent l'enjeu et, après avoir bu, se remirent à jouer. La chance alors tourna et l'étranger gagna facilement. Elle revint pourtant à Kimberlin, car il jouait maintenant avec toute la réflexion et toute l'adresse dont il était susceptible. Une fois seulement, il se demanda ce qu'il ferait de l'argent s'il se levait de cette table le gagnant, mais un sentiment de délicatesse lui fit décider de le restituer à l'inconnu. L'absinthe maintenant avait à ce point délié les facultés de Kimberlin que, la satisfaction temporaire donnée à sa faim étant passée, ses souffrances physiques revenaient avec plus de force. Ne pourrait-il pas, avec son gain, se commander à souper? Non, c'était la chose impossible et l'étranger ne parlait pas de manger. Kimberlin continua de jouer, tandis que la faim se manifestait par des affres qui le faisaient se tordre et grincer des dents. L'étranger, entièrement absorbé par le jeu, ne s'en apercevait pas. Il semblait embarrassé, déconcerté. Il jouait avec le plus grand soin, étudiant minutieusement chaque coup. Aucun propos ne s'échangeait. Il ne s'arrêtait que pour boire, puis le bruit des dés reprenait et l'argent continuait à s'amonceler à la droite de Kimberlin. La conduite du pâle inconnu devenait étrange. Parfois, il tressaillait et tendait l'oreille comme s'il écoutait. Son regard un instant flamboyait, puis redevenait morne. Plus d'une fois, Kimberlin, qui maintenant commençait à prendre son partenaire pour une sorte de monstre, voyait passer sur sa figure une expression hideuse, et ses traits, pour un moment, s'immobilisaient en une grimace particulière. Toutefois, il était évident qu'il s'affaissait de plus en plus dans un état d'apathique torpeur. Parfois, quand Kimberlin avait eu un coup étonnamment heureux, il levait les yeux vers lui et le considérait quelques instants avec cette fixité qui faisait trembler le jeune homme. Quand la seconde liasse de billets fut partie, l'inconnu en tira de sa poche une nouvelle, dont la valeur était de beaucoup supérieure à celle des deux autres mises ensemble. L'enjeu fut élevé à 1000 dollars la partie, et Kimberlin, toujours, gagnait. Enfin, le moment vint où l'étranger se disposa à tenter un effort final. D'une voix un peu pâteuse, mais d'un ton délibéré et tranquille, il dit « Vous m'avez gagné 74 000 dollars. C'est exactement l'équivalent de ce qui me reste. Voilà plusieurs heures que nous jouons. Je suis fatigué, et vous vraisemblablement aussi. Finissons-en. Nous allons, en une dernière partie, jouer le tout. » Kimberlin, sans hésitation aucune, donna son assentiment. Les billets formaient sur la table un monceau considérable. Kimberlin jeta les dés. Son coup joué, le cornet ne pouvait plus contenir qu'une seule combinaison susceptible d'amener sa défaite, et cette combinaison ne se voit qu'une fois sur 10 000. Le cœur de l'affamé battit violemment lorsque l'étranger prit le cornet avec un calme exaspérant. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il abattît. Il amena la combinaison. Kimberlin avait perdu. L'inconnu continua de regarder les dés longtemps, puis, lentement, se renversa sur sa chaise et, s'installant à l'aise, leva les yeux sur son partenaire et le considéra de ce regard sans vie. Il ne prononça pas une parole. Sur son visage ne se voyait nulle trace d'émotion ou d'intelligence. Il regardait, et c'est tout. On ne garde généralement pas les yeux ouverts longtemps sans un clignement des paupières, mais les paupières de l'inconnu ne clignotaient pas. Il restait tellement immobile que Kimberlin se sentit mal à l'aise. « Je vais partir maintenant, » dit-il à son compagnon. Il disait cela, et il n'avait pas un centime en poche, et il mourrait de faim. L'autre ne répondit rien, et devant la fixité de son regard, le jeune homme se recroquevilla sur son siège, terrifié. À cet instant, il se rendit compte que deux hommes causaient à voix basse dans le box voisin, et comme, dans le sien, régnait un silence de mort, il prêta l'oreille et voici ce qu'il entendit. « Oui,
On l'a vu s'engager dans cette rue il y a environ 3 heures.
Et il était rasé ?
Il a dû se raser. La suppression d'une barbe comme la sienne vous change naturellement son homme complètement.
Mais ce pouvait ne pas être lui.
Sans doute. Pourtant, son extrême pâleur a attiré l'attention. Vous n'ignorez pas qu'il a récemment souffert d'une maladie de cœur. Il était sérieusement atteint.
Oui, mais cela ne lui a rien enlevé de son adresse. C'est le vol le plus audacieux qu'on ait encore jamais commis dans une banque ici. 148 000 $, pensez donc. Depuis quand était-il sorti du bagne ?
Voilà 8 ans.
Pendant ce temps-là, sa barbe a poussé. Il vivait de son adresse au dé, jouant avec des gaillards qui pensaient bien le pincer s'il tentait de les tricher, mais c'était impossible. Personne n'a jamais pu se vanter de l'avoir gagné. Il n'est évidemment pas ici, cherchons ailleurs.
Puis les deux hommes trinquèrent et sortirent.
Et nos deux joueurs, le pâle et l'affamé, étaient là, assis, se considérant l'un l'autre avec 148 000 $ s'empilant entre eux. Le gagnant ne faisait pas un mouvement pour empocher la somme. Il ne quittait pas sa place, regardant fixement Kimberlyn, nullement troublé par cette conversation dans le box voisin. Son imperturbabilité était stupéfiante, terrifiante, son immobilité absolue. Kimberlyn commençait à grelotter la fièvre. Le regard froid et impassible de l'inconnu le glaçait jusqu'à la moelle. Incapable de le supporter plus longtemps, Kimberlyn s'écarta et, à sa grande surprise, constata que les yeux de son pâle compagnon, au lieu de le suivre, restaient fixés sur l'endroit qu'il venait de quitter, ou plutôt sur la cloison de derrière. L'épouvante s'emparait maintenant de lui. Il craignait de faire le moindre bruit. Des voix montaient du bar, et l'infortuné s'imaginait entendre des gens chuchotant et marchant sur la pointe du pied dans le corridor. Il se versa de l'absinthe, et, sans quitter un seul instant de l'œil son étrange partenaire, il but inaperçu par lui. Il avait eu, en se versant la liqueur, la main lourde, et la boisson produisit sur lui un effet particulier. Il sentit son cœur bondir avec une force et une précipitation alarmantes. Sa respiration devint difficile, mais la faim subsistait. La faim, l'absinthe lui donnait l'impression que les sucs gastriques le détruisaient en digérant son estomac. Il se pencha et parla à voix basse à l'inconnu, qui ne fit nulle attention à lui. L'une de ses mains était appuyée sur la table. Sur cette main, Kimberlyn posa la sienne, qu'il retira aussitôt. Cette main était froide comme la pierre. Il ne fallait pas que l'argent restât là, étalé. Kimberlyn en fit plusieurs tas, coulant à chaque instant un regard furtif vers son immobile compagnon, dévoré par une crainte mortelle qu'il ne remua. Puis, se renversant sur sa chaise, il attendit. Une invincible fascination le poussa à reprendre son ancienne place de façon à placer son visage en plein dans le rayon visuel de son compagnon, et les voilà de nouveau assis face à face, se regardant fixement l'un l'autre. Kimberlyn sentit que sa respiration devenait plus courte et plus faible, les battements de son cœur. Mais il s'en trouva mieux, car son anxiété se calma et les affres de la faim diminuaient. Son bien-être physique augmenta. Il bâilla. S'il avait osé, il aurait dormi. Soudain, une vive lueur le frappa et le fit se lever d'un bond. Avait-il reçu un coup à la tête ou avait-il été frappé au cœur ? Non, il était sain et sauf et vivant. Le pâle inconnu était toujours là, ne regardant rien et immobile. Mais Kimberlyn n'avait plus peur de lui. Au contraire, une extraordinaire vivacité d'esprit et une surprenante élasticité du corps lui communiquaient je ne sais quelle insouciance et quelle audace. Sa timidité première et ses scrupules se dissipaient. Il se sentait à la hauteur de n'importe quelle aventure. Sans hésiter, il ramassa l'argent et en remplit ses poches. « Je suis bien bête de mourir de faim, se dit-il, avec tout cet argent à ma portée. » Avec autant de circonspection qu'un voleur, il ouvrit la porte, se glissa dehors, la referma et la démarche assurée, la tête droite, sortit dans la rue. À son grand ébahissement, il trouva la ville tout animée, comme aux premières heures de la nuit. Le ciel était clair. Évidemment, il n'était pas resté dans le box aussi longtemps qu'il l'avait supposé. Il suivait la rue insouciant des périls qui l'entouraient et riait doucement mais joyeusement. Ne pouvait-il pas manger maintenant ? Oh, il le pouvait sûrement ! Comment ? Mais il pouvait acheter une douzaine de restaurants ! Bien plus ! Il pouvait parcourir la cité en tous sens en quête d'affamés et les nourrir des viandes les plus appétissantes, des rôtis les plus juteux et des huîtres les plus belles. Il allait d'abord manger, puis il fonderait un établissement où, pour rien, il nourrirait tous les meurs de faim. Oui, il allait d'abord manger, et si bon lui semblait, il mangerait jusqu'à en éclater. Trouverait-il dans un établissement de quoi apaiser sa faim? Vivrait-il assez pour se faire tuer et rôtir un bœuf entier pour son souper? Outre ce bœuf, il commanderait 2 douzaines de poulets rôtis, 50 douzaines d'huîtres, 1 douzaine de crabes, 10 douzaines d'œufs, 12 jambons, 8 jeunes cochons, 20 canards sauvages, 15 poissons de 4 espèces différentes, 8 salades, 4 douzaines de bouteilles de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne. Il n'oublierait pas la pâtisserie, et pour le dessert, il ferait apporter par boisseaux, noix, sucreries et glaces. Il faudrait du temps pour préparer un pareil repas, et s'il pouvait seulement vivre le temps nécessaire à le préparer, cela valait certainement mieux que de gâter son appétit avec 1 douzaine ou 2 de repas ordinaires. Il pensait pouvoir vivre assez de temps, car il se sentait étonnamment fort et dispos. De sa vie, il n'avait marché avec autant d'aise, ni si allègrement. Ses pieds ne touchaient plus le sol, il courait, il volait. Cela lui faisait du bien d'infliger à sa faim ce supplice de tantale. Il n'en goûterait que mieux les délices du festin. Comme tous le regarderaient ébahis quand il donnerait ses ordres. Ce serait comique de les voir hésiter, comique aussi leur stupéfaction quand il jetterait sur la table quelques milliers de dollars, leur disant de se payer et de garder la monnaie. Vraiment, ça valait la peine d'avoir si faim, car manger lui donnerait alors une indicible joie. Il ne faut pas être pressé de manger quand on a si faim, c'est bestial. De combien de la joie de vivre les riches se privent-ils en mangeant avant que d'avoir faim, avant que d'être restés 3 jours et 3 nuits sans nourriture? Et quel courage, quelle preuve d'empire sur soi-même de se jouer des tortures de la faim quand on a une fortune éblouissante dans sa poche et que toutes les portes des restaurants sont grandes ouvertes. Mourir de faim quand on n'a pas un sou vaillant, voilà qui est désespérant. Mais mourir de faim quand l'or fait éclater vos poches, oh, c'est sublime! Certes, le seul vrai paradis est celui où l'affamé se trouve devant un repas succulent qu'il pourrait prendre s'il s'en donnait la peine. Puis, la panse pleine, s'endormir. Tout en raisonnant ainsi, Kimberline ne mangeait pas. Il se sentait grandir démesurément. Les gens autour de lui devenaient des nains. Les rues s'élargissaient, les étoiles devenaient autant de soleils et faisaient pâlir les lumières électriques et les parfums les plus enivrants et la musique la plus suave emplissaient les airs. Criant, riant, chantant, Kimberline se mêla à un orphéon qui traversait la ville et puis... Les 2 policiers qui avaient filé le fameux voleur de la banque jusqu'au bar dans Mason Street, où Kimberline avait rencontré le pâle inconnu, s'étaient éloignés. Mais, incapable de reprendre la piste, avait fini par revenir au bar. Ils trouvèrent la porte du numéro 7 fermée. Après avoir frappé et appelé, ne recevant pas de réponse, ils enfoncèrent la porte du box. Ils y virent 2 hommes, l'un d'âge moyen, l'autre très jeune, assis parfaitement immobile de chaque côté de la table et se regardant l'un l'autre d'une manière étrange. Entre eux, une énorme somme d'argent en petit tas. À côté d'une bouteille d'absinthe, une carafe d'eau, 2 verres, 1 cornet et devant le plus âgé, les dés encore dans la position qu'ils avaient prise la dernière fois qu'il avait joué. L'un des policiers braqua son revolver sur le plus âgé et commanda « Haut les mains !» Mais le joueur n'y fit point attention. Les agents échangèrent un regard de surprise. Ils examinèrent de plus près le visage des 2 hommes et s'aperçurent alors que tous 2 étaient morts. C'était devant une bouteille d'absinthe de William Chambers Morrow.